On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Alors pour la culture de l'amande, attention à la branche.
Ah, oui. Oui, parce que les branches, elles sont pas très hautes. Hein.
Ouais, on a vite fait. À la sortie de l'hiver, il y a la floraison après la taille. C'est le premier arbre qui fleurit. C'est plein de fleurs blanches et c'est exceptionnel. Les gens s'arrêtent au bord de la route pour prendre des photos tellement que c'est joli. Voilà, ça fait un peu comme les cerisiers au Japon.
Essayez de les compter, monsieur.
Vous voulez que je compte les amandes
oui,
qui tombent
une, oui, une.
Bah, je pense que là, déjà, avec deux coups de bâton, il doit y en avoir au moins 200 qui sont tombés. Et pourtant, l'arbre, il est petit. Hein.
Et les petits, ouais. Vous voyez comme elles tombent bien. Hein. Là, elles sont prêtes. Hein. C'est le bon moment pour les ramasser. Hein.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau d'On va déguster. Nous sommes en direct et aujourd'hui, on vous met à l'amande, mais sans violence, avec deux A à amande, car oui, on préfère l'amande provençale à l'amande honorable ou l'amande pénale. Notre reporter Stéphane Combe va nous faire voyager dans le sud de la France. Il est allé participer il y a quelques jours à la récolte des amandes chez les Romans. C'est une famille de producteurs à Jonquière, une exploitation bio en face du Mont Ventoux dans le Vaucluse. Nous entendrons son reportage au fil de cette émission. Du verger à l'assiette, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un plat et même plusieurs plats à base d'amandes. Des plats que nous a mijotés. Notre invitée du jour, une amoureuse de l'amande, au prénom prédestiné, Amandine Gers. Bonjour.
Bonjour.
Beau prénom quand même. Hein.
Merci.
Vous êtes cuisinière, auteure de nombreux livres de cuisine chez Terre Vivante, un éditeur qu'on aime beaucoup, tourné vers l'alimentation vivante, l'alimentation biologique, très végétale. Vous êtes également animatrice de cours de cuisine. Et en amandon, en poudre, effilé, en crème, on va dompter avec vous l'amande sous toutes ses formes. On va même apprendre à faire... un lait d'amande. Mais il y a plein d'autres belles choses qui nous attendent et qui paradent sur le plateau dont on va déguster. Dans les fauteuils des chroniqueurs pour nous accompagner jusqu'à midi en direct, Déborah Dupont et Jérôme Gagnès, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Déborah Dupont, notre libraire gourmande.
Alors j'avais prévu de casser la noix, mais en l'occurrence, le changement de saison fait que ça va plutôt être casser la voix, mais on va se débrouiller quand même.
Ah oui, effectivement, vous avez pris un peu cher, mais peut-être que l'amande va vous soigner vos cordes vocales.
Adoucir effectivement mes cordes vocales.
C'est ça, un petit lait d'amande, ça va vous faire du bien. On va vous prescrire ça. Jérôme Gagnès.
On va s'intéresser à un travail de bénédictin.
Un travail de bénédictin, on n'en dit pas plus, il s'agit de vin rouge.
Et blanc.
Et blanc. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Tristan Gratalon, Nadia Chougui, réagissez en direct dans l'émission depuis l'application de France Inter, mais également sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou sur Twitter avec le mot-clé on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Aujourd'hui, on part à Nîmes, juste avant de parler amande pour mon adresse de la semaine. C'est dans le Gard et c'est à Nîmes qu'a été inauguré le 2 juin dernier le musée de la Romanité. Vous en avez sans doute entendu parler. Imaginez un bâtiment de plus de 9000 mètres carrés, juste en face des arènes de Nîmes, avec une façade carrée, imaginée par l'architecte Elisabeth de Portzamparc, constituée de milliers de lames de verre sérigraphiées qui sont censées rappeler le drapé d'une toge. Voilà, bon, c'est un bâtiment qui a fait un peu polémique parce qu'il se situe juste en face des arènes de Nîmes et certains ont crié à...
Au scandale.
Au scandale, absolument. Bon, en tout cas, j'ai apprécié cette visite. 5000 œuvres antiques, mosaïques, fresques, statues, objets de la vie quotidienne qui proposent un voyage passionnant dans notre histoire gallo-romaine. Et on y apprend d'ailleurs, tiens, Amandine, que la culture de l'amandier s'est développée très fortement en France à l'époque gallo-romaine, dans le Languedoc et en Provence.
Mmh. Oui, j'ai appris ça aussi.
Et ce qu'il y a de bien dans le musée de la Romanité, c'est qu'après 1h30, 2h de nourriture spirituelle, on grimpe au dernier étage pour les nourritures terrestres, ou je serais presque tenté de dire les nourritures célestes, car vous avez vraiment l'impression de toucher le ciel et d'embrasser les arènes de Nîmes depuis la terrasse panoramique de la table du 2. C'est le restaurant du musée. Ce restaurant est une brasserie contemporaine, pilotée par Franck Putlat, on le connaît, hein, 2 étoiles au guide Michelin à Carcassonne. La table de musée, on le sait, c'est un exercice un peu casse-gueule parce qu'on s'adresse souvent à des clients qu'il faut sustenter rapidement, qui ne viennent pas forcément pour venir au restaurant, mais plutôt d'abord pour visiter le musée. Donc, faut attirer leur attention avec des nourritures bien faites, assez consensuelles, à prix accessible. Et bien là, la table du 2 fait le boulot. J'y ai dégusté un assortiment de légumes de production locale, cru et cuit, à tremper dans une anchoïa de maison fort bien faite. Des tomates anciennes de plein champ avec une mozzarella et un pistou frais, ça allait très bien. Des aubergines farcies à la brandade de morue, évidemment la spécialité nimoise. Le tout servi dans sa cassolette en fonte, ça marchait bien aussi. Un carré d'agneau rôti au thym qui était très bien cuit. Peau grillotée, chair rosée, tout cela allait très bien. Et un dessert, tiens, à l'abricot rôti, miel, crumble et...
amande.
Voilà, des amandes. Et ça marchait
bien.
Un très beau mariage. Jérôme, je vous ai rapporté la carte des vins. Est-ce que vous avez eu le temps d'y jeter un œil ?
Oui, j'ai eu le temps d'y jeter un œil. Et en fait, j'ai le même commentaire que vous sur le classicisme. Et il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Mais moi, j'aime bien ça aussi. Donc, elle est pas très courte. Si toutes les cartes de restaurants de musée étaient pareilles, on ferait des bons de cabri et on applaudirait. Mmh. C'est loin d'être le cas. Pas mal de références en blanc, rouge et rosé. C'est la toute fin de saison. Je parlerai d'un rosé, l'Ermitage du Pic Saint-Loup 2017. Oui. C'est facturé 27€ sur table. C'est un très beau domaine en bio. Des gens qui font des très bons vins. Il y a d'autres références du même domaine en blanc et en rouge. Mais voilà, puisqu'il faut s'arrêter sur une référence, je choisis celle-là parce que ça fera encore le job, surtout à Nîmes. Il va en faire encore beau quelques jours.
Oui.
Et voilà l'occasion de bien accompagner tout un repas avec un très joli rosé.
On suivra votre recommandation, Jérôme Gagnès. La table du 2, c'est la brasserie du chef Franck Putla pour conclure en toute honnêteté une visite au musée de la Romanité avec cette vue bluffante sur les arènes de Nîmes. Il y a un menu déjeuner, entrée, plat, dessert à 19,50€ du lundi au samedi au déjeuner. Sinon, c'est ouvert midi et soir, 7 jours sur 7. Et on reste juste dans le département du Gard pour vous signaler un événement qui me tient à cœur. Le superbe village de Vézénobre fêtera le week-end prochain, les 29 et 30 septembre, un fruit que j'affectionne tout particulièrement, un fruit de saison, car c'est plus un fruit d'automne que d'été, c'est la figue. Pépiniériste, producteur, transformateur se donne rendez-vous dans ce village médiéval qui fut un bassin de production historique de la figue dans le sud de la France et qui est en train de réhabiliter un verger conservatoire de figuiers avec des dizaines de variétés qu'on pourra visiter à l'occasion de ce week-end. Jour de figue, samedi et dimanche à Vézénobre dans le Gard. De la figue, on passe à l'amande juste après Holidays avec le titre On a déjà choisi par l'ami Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
On a déjà volé des nuits, on a déjà foulé l'ennui sans s'ennuyer.
On a déjà vu la couleur, ce qu'on pourrait devenir. les tartelettes amandiers. Mmh. Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes, d'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits. Puis, que ces puits passent au four et blondinent, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines.
La recette en verre des tartelettes amandines, la scène pâtissière de Cyrano de Bergerac, la fameuse pièce d'Edmond Rostand. Est-ce que vous avez reconnu celui qui joue le rôle du pâtissier Ragnaud?
Mais oui, j'ai préparé l'émission aussi. C'est Michel Galabru qui l'interprète.
C'est Michel Galabru.
Ça date de 1960.
Dans un téléfilm de 1960.
Oui, un téléfilm. Oui, je ne sais plus si c'est un téléfilm ou un film. Mais
non, je crois que c'est un téléfilm.
Oui.
Oui. Est-ce que c'est par...
Oui, c'est très très. Et d'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion qu'Amandine prend un S dans les tartelettes Amandine. Ça s'accorde.
Ah, je ne savais pas.
Oui.
Parce que j'allais vous demander si c'était justement par amour que vos parents avaient eu la bonne idée de vous donner le prénom. Par amour de cette pièce,
oui,
de théâtre,
bah
le prénom Amandine.
Ah non, alors c'est pas par amour de cette pièce de théâtre, c'est par amour, mais c'est une autre histoire. Ça a rien à voir avec les amandes en soi, mais ça me convient parce que symboliquement, les amandes, elles sont plutôt honorables. Elles symbolisent la fertilité, le renouveau. Donc ça me convient comme prénom.
D'autant que vous êtes amoureuse des amandes, on va évidemment consacrer toute cette émission au sujet et on va voir que vous en avez des tours dans votre sac pour la préparer, ce fameux oléagineux. Mais c'est pas, vous n'avez pas non plus d'origine méditerranéenne. C'était même pour vous, je crois, quand vous étiez petite, un produit assez exotique, l'amande.
Ah, c'était tellement exotique que j'en ai jamais mangé pendant mon enfance, en fait, parce que en Sologne, dans les années 70-80, on mangeait des noix, des noisettes, mais on mangeait pas d'amandes. Mes parents n'achetaient pas d'amandes. C'est bien plus tard que j'ai découvert l'amande, gustativement, pour ses intérêts nutritionnels, et que je les ai intégrées dans mes recettes, voilà, au-delà que juste en grignoter à l'apéro.
Pour rendre hommage à votre prénom, mais également à Cyrano de Bergerac, vous avez même réinterprété pour nous, de façon un peu simplifiée, sans suivre à la lettre la recette déclamée par Michel Galabru, cette fameuse tartelette amandine, qu'on a d'ailleurs sous les yeux, que j'ai goûtée. Elle est délicieuse, elle a une petite note un peu d'amande amère.
Alors, je regrette un peu de ne pas avoir suivi la recette exacte, parce que je pense qu'on pourrait le faire, parce que lui, en fait, il ne met pas de sucre. Je pense que le lait d'amande est sucré. Il ne met pas de poudre d'amande, alors que j'en ai mis. Mais ça doit, donc c'est une pâte à flan. Donc c'est dans la recette de Ragnaud, c'est des œufs battus avec du lait d'amande. Et ça fait une sorte de pâte à flan un peu épaisse, parce qu'il devait utiliser du lait d'amande assez épais.
Oui.
À l'époque. Donc moi, j'ai suivi abricoter les côtés.
Oui.
Ça, je l'ai fait dans la recette qui est là.
Ça signifie?
Eh bien, avec mon doigt, j'ai trempé mon doigt dans la confiture d'abricot et j'ai appliqué sur les bords de la tartelette.
Et ça, c'est vraiment le principe, la tartelette amandine, il y a de la confiture d'abricot.
Il y a de la confiture d'abricot. Après, j'ai rajouté du citron aussi, mais je n'avais pas de cédra.
Oui.
J'ai rajouté du citron jaune, donc c'est peut-être ça, le petit goût qu'on sent.
Donc, poudre d'amande.
Alors, lait d'amande maison, déjà,
oui.
Plus poudre d'amande maison.
On va apprendre
maison.
À le faire dans un instant avec vous.
Tout ça mélangé dans des œufs bien fouettés hein, pour qu'ils soient mousseux, comme le dit Galabru. Et on met tout ça dans un fond en tartelette, donc une pâte sucrée classique.
Que vous avez faite maison, évidemment.
Que j'ai faite maison, évidemment, de mes petites mains.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette tartelette amandine, Jérôme?
C'est en direct, hein.
On sent bien l'amande, hein.
Oui, elle est forte en amande.
Par contre,
pour une fois, l'étiquette colle au produit.
Ouais. C'est pas quelque chose qu'on mange après le repas, je dirais. C'est pas un dessert, parce que c'est quand même assez nourrissant.
Oui.
Plutôt quelque chose qu'on va manger au goûter.
Absolument, c'est nourrissant, mais c'est sain.
Ah, mais tout est sain.
L'amande
mais ça cale.
L'amande étant délicieuse pour la santé.
L'amande est très bonne pour la santé, on peut en parler. Ouais.
C'est peut-être justement par son profil nutritionnel que vous avez été attiré par ce fruit à coque, Amandine Gers.
Oui, parce qu'on a, avec Olivier Degors, donc mon partenaire, il y a une vingtaine d'années, on s'est beaucoup intéressé à la nutrition et la diététique. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que j'ai découvert les amandes, les fruits oléagineux, puis plein d'autres aliments comme
les algues,
différentes farines.
Oui.
Voilà. Et donc, elle est riche en protéines.
Oui.
Ça, c'est très important, surtout pour les personnes végétariennes. En plus, c'est vraiment très riche en protéines. Il y a presque plus de protéines que dans le soja,
d'accord,
dans les amandes. Très riche évidemment en quantité de minéraux dont on a souvent besoin, comme le calcium, le magnésium, le potassium.
Grande source de calcium.
C'est le fruit oléagineux qui contient le plus de calcium.
Et l'autre avantage de l'amande ?
Elle contient évidemment beaucoup de fibres et puis ces acides gras qu'on a tendance d'habitude à décrier. En fait, les acides gras des fruits oléagineux et ceux de l'amande sont bénéfiques pour la santé. Et l'amande contient peu d'oméga 3, contrairement à d'autres, mais beaucoup d'acides gras monoinsaturés. C'est le même profil que l'huile d'olive.
C'est ça.
Et c'est très équilibré comme acides gras. Donc, ce ne sont pas des graisses qui font grossir.
Oui.
Ce sont même des graisses qui vont être rassasiantes. Donc, quelques amandes vont nous couper l'appétit et nous éviter de manger des cochonneries.
Il y a même des études qui ont été faites il y a quelques années aux États-Unis et en Espagne et qui prouvent que quand on mange des amandes, paradoxalement, on reste plus mince. Il y a effectivement du gras et des lipides dans l'amande, mais comme elle est très rassasiante, évidemment, c'est autant d'autres aliments qu'on n'ingère pas parce que l'amande cale, en fait.
C'est un aliment minceur, je pense qu'on peut le dire.
Donc une poignée d'amandes dans la poche de nos enfants qui partent à l'école.
De nos enfants, de nous-mêmes. Prendre des amandes au goûter ou en cas de petite fringale, c'est idéal.
L'amande est grasse mais contient du bon gras et l'amande ne fait pas grossir, qu'on se le dise. Et c'est effectivement une très belle source de minéraux, d'antioxydants, de vitamines, de calcium. Donc raison de plus pour se ruer évidemment sur l'amande. On va se ruer sur l'amande mais au moment de la récolte, car l'amande, je ne vous apprends rien, est le fruit de l'amandier. C'est un arbre qui pousse en France, de préférence sous le soleil du sud. Je vous propose d'assister à la récolte des amandes. C'était il y a quelques jours dans une exploitation bio de Jonquière, une commune du Vaucluse, juste à côté d'Orange. Notre reporter Stéphane Combe est parti à la rencontre du producteur Arnaud Roman. Attention, ça va secouer.
Donc on a deux cultures, c'est la vigne et les amandiers. Toutes nos cultures sont en agriculture biologique. D'ici, on peut voir le Ventoux.
Là, on est juste à côté d'un amandier.
Oui.
Ça ressemble à un pêcher, un petit pêcher de vigne.
Un petit pêcher de vigne, oui. Ouais. Après, c'est taillé en gobelet. C'est-à-dire qu'il faut. C'est un peu comme l'olivier, la taille se fait comme l'olivier. Le soleil doit pénétrer à l'intérieur de l'amandier. Il faut qu'un oiseau puisse tourner au milieu de l'amandier.
Essayez de les compter, monsieur.
Vous voulez que je compte les amandes qui tombent ?
Oui,
je pense que là, déjà, avec deux coups de bâton, il doit y en avoir au moins 200 qui sont tombés. Et pourtant, l'arbre, il est petit. Hein.
Et il est petit, oui. Vous voyez comme elle tombe bien. Hein. Là, elles sont prêtes. Hein. C'est le bon moment pour les ramasser. Hein. Début septembre, mi-septembre.
Voilà. Début à mi-septembre. Après, selon les variétés, ça peut aller jusqu'à fin septembre, début octobre. Il y a plusieurs variétés en France. C'est la Ferragnès avec la Lorane. La ferraduelle, la mandaline. Il y en a certaines qui ont un goût un peu plus prononcé et d'autres qui sont plus grosses et d'autres plus petites. C'est en fonction de ce qu'on recherche commercialement. C'est pour les petites, c'est pour les dragées, pour les enrobages, tout ça, que les grosses, c'est pour manger à la bouche. Ouais, elles ne tiennent presque plus. Là, hein. Elles ne tiennent plus. Faire attention que ça ne tombe pas sur la tête. Puis on peut voir la qualité des amandes, elles sont superbes.
Là, vous voyez qu'elles sont de belles qualités.
Ah oui, là, on peut les yeux fermés. La coque est rigide, la couleur, l'aspect est brillant, bien clair. Je vais en casser une. Et là, on peut voir la qualité de l'amandon. Il y a ce petit côté...
Elle vient juste de tomber de l'arbre.
Ah, c'est ça, ouais, c'est le meilleur moment pour les déguster. Quand on la met en bouche, ça a du goût.
Mmh.
C'est vraiment de l'amande, ça. C'est de l'amande du goût qui est forgé par le soleil d'ici, le Mistral aussi. Et le terroir qu'on peut avoir ici en Provence. Je suis tombé amoureux des amandiers et des amandes lors d'une visite de Nougatier à Montélimar. Et du coup, comme j'étais en projet d'installation, nous, dans notre jardin, on a toujours eu des amandiers qu'on récoltait en famille. Parce qu'au tout début, quand on a planté ces arbres, ils sont à côté d'une route. Tout le monde nous regardait. C'est quoi ces arbres ridicules que vous plantez ? On nous prenait un peu pour les farfelus. Mais maintenant, on vient de nous demander des conseils, comment on les plante, comment on les ramasse, comment... Mais après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait notre propre nougat avec la mère et mes deux sœurs. Pendant une demi-journée, on s'attelle à faire le nougat pour Noël.
Pour voir le geste précis du coup de bâton Cassène, la famille Roman, sur les amandiers de leur exploitation bio. Je vous propose de retrouver une petite vidéo qu'a tournée Stéphane Combe, notre reporter sur franceinter.fr. À la page On va déguster, Stéphane Combe nous a rapporté des amandes sèches avec leur peau mais sans leur coquille. Je les ai dans les mains. Et de l'autre côté, alors carrément le fruit brut tel qu'il tombe de l'arbre. Et là, on comprend la parenté qu'il y a entre l'amande et effectivement la pêche, on dirait une petite pêche, dans la mesure où la coquille de l'amande est entourée de cette enveloppe verte qui a légèrement séché, qu'on appelle la gove, selon les accents. Et c'est de la famille des rosacées, évidemment. Hein. C'est vrai que c'est pas très loin de la prune, de la pêche, même de la cerise, l'amande.
Ah oui, voilà, je suis étonnée, ouais, c'est vrai. C'est une coque, en fait.
Oui, c'est une coque.
Comme celle des noix. Ah oui, mais c'est ça ressemble plutôt à une
peau un cuir, peu épaisse, un peu effectivement, cuir. Qu'on a l'habitude de voir verte quand on a la chance d'en trouver sur les étals, et puis qui, là, ressemble à une peau de pêche un peu fripée, un peu...
Et un peu dufteuse, avec un léger duvet. C'est un très bel arbre.
Et en dessous, on a l'amande en coquille.
Absolument.
Qui contient l'amande telle qu'on la trouve en supermarché pour pouvoir faire nos préparations, effectivement, de cuisine.
Que l'on appelle l'amandon. Absolument. La récolte des amandes est terminée dans l'exploitation de la famille Roman. Et qu'est-ce qui se passe après? On retrouve notre producteur Arnaud et son papa Jean-Yves dans leur verger de jonquière.
On a fini d'enlever les amandes sur l'arbre, elles sont toutes par terre, presque, il y en a encore une là. Et on va enlever le tapis et on va le mettre dans les palox.
Elles font un joli bruit, elles claquent, entendez. Vous voyez? Ça veut dire qu'elles sont bien pleines dedans, qu'elles ne sont pas creuses.
Alors ces amandiers, ils viennent d'où exactement?
Alors ces amandiers, ils viennent d'Iran, mais après ils ont été amenés par la route de la soie dans le bassin méditerranéen. Déjà sous l'Antiquité, on peut retrouver l'amande. Avant, les petites anecdotes, les Romains jetaient aux jeunes couples des amandes, ça portait bonheur pour eux et amour, alors que maintenant on jette du riz. On va bien. Bon, après il faut enlever les feuilles avec les gobes. Papa, à ton avis, là, il y a combien de...
Les deux arbres qu'on a ramassés, là?
Ouais.
Ben, il doit y en avoir, voilà, il y en a 50 kilos, là.
Ouais, 50 kilos. Ouais, il y a un peu moins, mais... 50
kilos. Au départ, on croyait qu'il y en avait moins.
L'année dernière.
Vu les conditions météo, et je crois que cette année, il y en a presque autant que l'année dernière.
On s'en sort bien, là.
Alors, on voit, donc, là, il y a des milliers d'amandes avec la gove et puis plein de petites feuilles vertes.
Ce qui va être transféré au cassoir, c'est la coquille avec l'amandon dedans.
C'est ce petit...
Voilà, ce qu'on recherche, nous, c'est l'amandon. Et c'est de
le
couleur
fruit
marron.
Sec, c'est l'amandon. Oui. C'est ce petit fruit qui fait quoi, 1 cm de long et qui est ovale, et voilà. De couleur marron.
Marron, c'est la peau qui est marron, et à l'intérieur, c'est blanc. Nous, après le cassoir, on va les vendre. L'amande décortiquée, on la récupère et on la vend aux particuliers en sachet d'un kilo. Nous, c'est 23 euros le kilo. Quand je fais tomber les amandes comme ça, là, dans le palox, là, que je les prends dans la main, j'aime bien ce bruit. Ça veut dire qu'elles sont bien mûres, signe de qualité, que la coque est bien dure. Et donc, j'aime bien entendre ce bruit.
L'amande bio, made in France, même si la France n'assure que 10% de la production mondiale d'amandes. C'est essentiellement la Provence, le Languedoc-Roussillon et la Corse qui sont les principales régions de production. Cette production est assez faible, c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'Arnaud Montebourg, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'ancien ministre socialiste de l'économie et du redressement productif, s'est lancé, figurez-vous, dans la production d'amandes bio. Il relance la filière de l'amande dans le Midi et en Corse, alors pas à travers une coopérative, mais plutôt un projet d'investissement privé, la compagnie des amandes d'Arnaud Montebourg. Et c'est vrai qu'il faut redevenir un peu compétitif par rapport à l'industrie californienne de l'amande, car il faut bien parler d'industrie, c'est 84% de la production mondiale au prix d'une culture intensive et très très gourmande en eau, au point de poser des problèmes de nappe phréatique en Californie quand même. 10% de l'eau consommée en Californie est destinée à la culture d'amande. Je sais pas si vous imaginez, ça fait un peu peur, non?
Oui, voilà, je suis vraiment désolée, moi ça me fait peur, ouais.
Vous privilégiez des amandes bio
Ah oui, moi j'achète des amandes bio comme tous mes aliments. Et en plus, c'est pas beaucoup plus cher. J'ai fait un peu le tour, là, quand je suis pour préparer l'émission. J'ai trouvé dans des épiceries non bio des amandes à 24 euros le kilo. Et j'ai trouvé dans un magasin bio, au poids, des amandes bio à 14 euros le kilo.
Oui.
Donc il faut savoir où acheter ces produits.
Bien sûr.
Voilà, c'est un engagement pour notre environnement, pour notre santé, enfin... Il suffit de passer les portes de quelques magasins où voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais une fois qu'on a la bonne adresse, on la garde.
Absolument. Et vous, vous en achetez des amandes et des kilos. Confectionner notamment un lait d'amande. Ça, c'est un très bon truc. On a tendance à l'acheter en briques. Souvent, c'est bio d'ailleurs, en supermarché ou dans les magasins spécialisés. Or, il est plus intéressant, et c'est pas compliqué, de faire son lait d'amande à la maison. Oui. C'est beaucoup plus économique.
C'est plus économique, c'est meilleur.
C'est moins énergivore.
On peut fabriquer juste la quantité dont on a besoin assez rapidement. Ça prend 3 minutes. Voilà, ça coûte quand même 2 fois moins cher. Hein, parce qu'il faut 100 grammes d'amande pour fabriquer à peu près 1 litre de lait d'amande.
Oui.
Je les ai achetés 14 euros le kilo, donc mon litre d'amande, de lait d'amande m'est revenu à 1,40 €.
Alors qu'effectivement, quand vous achetez une brique de Bjork, on va dire, hein, bon, citons la marque, c'est entre 2,50 € et 3 €,
ouais,
la brique d'un litre.
Facilement. Oui, facilement.
Oui.
Oui, ça peut être beaucoup plus même.
Donc c'est très intéressant.
Donc c'est très intéressant.
Et il ne faut pas avoir peur du lait d'amande, car c'est très simple à faire. On peut pas parler d'ailleurs de lait. Enfin, lait végétal, maintenant, c'est un peu compliqué parce que on va parler d'une boisson à base d'amande.
Oui, on dit lait parce que c'est plus facile et qu'on l'utilise aussi comme ça. On peut l'utiliser au petit déjeuner comme du lait avec du chocolat.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire lait. Donc, on dit jus d'amande.
Jus d'amande.
Donc, en fait, on fait tremper 100 grammes d'amande la veille. Voilà.
Donc avant là, on prend vraiment l'amande, pardonnez-moi, qui est légèrement séchée avec sa peau.
Voilà, l'amande entière. Si on a la flemme de le lendemain les émonder à la main, on peut acheter des amandes déjà mondées. Mais bon, c'est très rapide de les émonder une fois qu'elles ont trempé. Il suffit de pincer l'amande entre les mains et la peau s'en va toute seule. Parfois, l'amande part avec aussi, mais c'est assez facile à faire. Donc, on les fait tremper toute une nuit. Elles vont gonfler. Ça va être très intéressant d'ailleurs pour le profil nutritionnel de l'amande, puisque en fait, on va faire une sorte de pré-germination, ce qui va permettre à nous, à l'homme, de mieux assimiler les minéraux que contiennent l'amande. Donc l'amande va gonfler, elle va se ramollir, elle va se densifier d'un point de vue nutritionnel. Et le lendemain matin, on les met dans un blender ou un robot assez efficace. On met 800 ml, 1 litre d'eau pure dedans.
Pour 100 g d'amande préalablement trempée.
Voilà. On mixe une minute. Et éventuellement, si le robot est pas très efficace, on filtre pour pas avoir de petits grains.
Oui.
Mais moi, j'ai un robot très efficace, j'ai pratiquement pas eu besoin de filtrer.
Mmh.
Et on obtient un lait onctueux qui ne se casse pas, qui est très, très doux. Alors là, j'ai rajouté un peu, pour parfumer, un peu de sirop de vanille bourbon, mais
très légèrement,
de vanille de Madagascar, juste pour aromatiser, pas pour sucrer.
Ça m'amuserait beaucoup de demander à notre chroniqueur vin ce qu'il pense de ce lait d'amande. Ça va lui ça va lui le changer du rouge et du blanc. Jérôme Gagnez,
bah,
que pensez-vous de ce blanc?
c'est blanc comme neige, c'est très liquide. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aussi on n'appelle pas ça un lait, parce que
merci
c'est pas
pour
aussi...
cette remarque.
Non, mais c'est pas aussi onctueux qu'un lait. Il y a moins de densité. Non, mais ça reste très aqueux quand même dans la texture.
On peut mettre moins d'eau et ce sera plus épais. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. On peut rajouter plus d'eau et ce sera plus liquide.
Et ça sent vraiment l'amande, c'est un vrai concentré d'amande.
Oui, sent vraiment l'amande, c'est assez impressionnant et c'est très facile à faire.
Ah oui, ça rivalise avec les laits du commerce sans problème. Hein.
C'est naturel, il n'y a pas de conservateur. Ouais. Combien de temps ça se garde au frais
le lait d'amande
avant qu'il ne tourne?
3-4 jours, je dirais.
C'est ça.
Oui.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez apporté non seulement ce lait d'amande légèrement vanillé qui a un goût tout à fait exceptionnel. Je sais que ça plaît aux enfants, notamment au petit déjeuner.
Oui.
C'est très nourrissant, très agréable sous le palais. Et cette amande qui a trempé, tiens, je la perds, elle a glissé, puisque la peau a glissé sous mes doigts. Je retrouve le goût de l'amande fraîche, ce goût assez virginal, assez laiteux qu'on a en général au printemps quand on croque une amande fraîche. C'est un goût absolument exceptionnel, très subtil.
Mmh.
Et là, avec le trempage pendant une nuit des amandes sèches, on retrouve ce goût très frais. Ça peut être bien sur une salade spontanément.
Et c'est vrai que les gens ne pensent pas à le faire, mais c'est très important de faire tremper les amandes. Et en plus, il faut les nettoyer. Ça, c'est quelque chose que les gens font rarement avant de les consommer. C'est bien de les nettoyer. Donc, une fois qu'on les passe sous l'eau, on peut les laisser tremper toute une nuit. Et avec les amandes, on peut tout faire. C'est ce qui est intéressant. Ça convient au plat salé, au plat sucré, au plat cuit, au plat cru. On peut les rajouter dans des salades, rajouter dans des tagines, on peut les utiliser en dessert et sous toutes leurs formes.
Une petite précision. Lorsque vous avez mixé votre lait d'amande et que vous l'avez filtré, vous obtenez donc cette boisson blanche qu'adore Jérôme Gagnez, qui a décidé d'arrêter l'alcool pour se mettre au lait d'amande. C'est un scoop dont on va déguster.
Moi, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné.
Il reste au fond de la gaze ou de la passoire ou du chinois.
Oui.
une espèce de pulpe d'amande qui s'appelle, qui a un nom particulier.
Oui, ça s'appelle l'Okara.
Et que vous recyclez. Okara, O-K-A-R-A.
Voilà. Alors l'Okara, c'est la pulpe résiduelle quand on fabrique du lait, que ce soit du lait d'amande, du lait de soja ou tout autre lait. C'est vrai qu'avec la fabrication du lait d'amande, il n'y a pas beaucoup d'Okara parce qu'on peut mixer assez finement et puis on utilise l'amande dans le lait. Donc il en reste peu, mais on ne jette pas cet okara. On le garde et on peut le réutiliser pour faire des pâtisseries, des rochers, le mettre dans une pâte à gâteau, à cake.
Évidemment,
ou si on le fait sécher, on peut le transformer en farine et le conserver plus longtemps.
Dans un instant, on va découvrir le sort qui est réservé aux amandes de la famille Roman à Jonquière, avec des petites choses, des gourmandises sucrées et salées tout à fait exceptionnelles. On va revenir sur d'autres recettes avec Amandine Gers, bien entendu. Déborah Dupont va évoquer un autre oléagineux dans une recette tout à fait réussie, non ?
Ah, mais ça va être aussi de l'amande, même si le livre s'appelle Casser la noix. J'ai choisi quand même une recette avec de l'amande.
Avec de l'amande, et c'est une très bonne idée. Et puis, on ira du côté du Mont Ventoux avec... Pourquoi vous me regardez comme ça, Jérôme ?
Non, parce que je suis passionné par ce que vous dites.
Oui, avec notre ami Jérôme Gagnès. Tout cela, ça se passe juste après Good Day. Un day, évidemment, sous le signe de l'amande de Jonathan Jérémia. I see the kids, them running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. And I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Busy bee watching the world singing la, 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 la. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the night streets with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Vous met à l'amande en ce dimanche 23 septembre. Nous sommes en direct avec Amandine, non pas Amanda, oui, attention. Amandine Gers, amoureuse de l'amande, auteure culinaire, qui nous a préparé de très belles recettes autour de l'amande. Déborah Dupont, notre libraire gourmande et notre chroniqueur vin. Jérôme Gagnès, pas mal de réactions par mail sur la question, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent, on n'en connaît pas forcément la réponse, sur l'amande amère.
Exactement, pas mal d'auditeurs se posent la question de savoir est-ce que l'amande amère est une variété d'amande, est-ce que c'est de l'amande sauvage, est-ce que c'est la fameuse amande qu'on a dans les noyaux d'abricots de pêche, qu'on a l'habitude de mettre dans les confitures. En gros, l'amande amère, c'est quoi?
Vous auriez la réponse, Amandine, ou pas? L'amande amère, c'est vrai que c'est aussi un extrait que l'on met parfois, qui n'est pas toujours naturel d'ailleurs.
Ouais, bah, j'aimerais bien avoir une réponse scientifique, parce que je pense que c'est un autre type d'amande.
Oui.
Mais ça m'arrive aussi dans un amandier de croquer sur une amande qui est elle-même devenue amère. Donc
c'est vrai.
Du coup, j'ai un doute.
C'est vrai que sur des amandiers cultivés en Provence, on peut tomber en effet sur des noix ou des amandes qui sont tout à fait amères. Mais l'amande amère, Déborah,
toxique, hein.
C'est bel et bien issu de l'amandier sauvage, contrairement à l'amande douce qui est l'amandier domestiqué. C'est bien cela. Petit problème de santé ?
Petit problème de santé, effectivement, que j'ai essayé de résoudre à base de gingembre, bouillon de poule et amandes.
Oui.
L'émission tombait parfaitement bien. Je rejoins un peu ce que disait Amandine. C'est vrai que moi, pendant mon enfance, les amandes, je connaissais pas.
Mm-hmm.
Pour moi, les oléagineux, c'était les noix, les noisettes que je ramassais en Normandie chez mes parents.
Mm-hmm.
Mais l'amande, j'ai découvert ça sur le tard. Alors d'abord, en mettant un peu dans des cookies, en tartinant du pain le matin, tout simplement.
Oui.
Et puis là, j'ai été absolument ravie parce que du coup, je me retrouvais avec des pots de purée d'amande à ne plus savoir qu'en faire, que ce soit de la purée d'amande, de la purée de noix de cajou, quoi que ce soit. On utilise une cuillère à soupe pour une recette et puis ensuite, ça reste dans le placard.
Mm-hmm.
Et là est arrivé un livre qui va solutionner ce problème.
Oui.
Que nous avons tous. Quoi faire de ces fonds ?
Problème existentiel.
Exactement. Donc le livre s'appelle Casser la noix. C'est une traduction d'une anglaise qui s'appelle Pippa Murray, qui a monté en fait une entreprise de purée d'oléagineux en Angleterre.
Oui.
Et donc le livre est sorti en France aux éditions Prisma.
Mmh.
Donc Casser la noix, 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amandes, de noisettes et de cajou.
Oui.
Et donc moi j'ai essayé une recette salée. Alors je vous propose de goûter, comme ça vous me direz ce que vous en pensez.
Attendez, c'est salé ça ?
Ça c'est complètement salé, c'est même très très salé, c'est franchement même épicé.
Oh c'est bon.
C'est pas mal hein.
Ah non, c'est délicieux.
Est-ce que vous arrivez à trouver ce qu'il y a dedans déjà ? À part de l'amande donc, mais qui finalement...
Du poulet ?
La patate douce.
Poulet, patate douce, épinard.
C'est délicieux. Jérôme, vous restez sans voix.
Jérôme est en train d'ausculter ce qu'il y a à l'intérieur de son petit verre.
Je suis en train d'enlever la coriandre.
Du citron. Il est en train d'enlever la coriandre, et oui.
C'est un délicieux curry.
Qu'est-ce qu'il est embêtant. Mais il est embêtant, ce garçon. Il a toujours un truc à redire.
C'est très très bon.
Oui, merci.
C'est vrai.
Non, c'est vraiment
bon.
Délicieux, merci. Très franchement.
Oui, c'est très bon.
Donc, je la refais dès ce soir à la maison.
Et ben, c'est très simple à faire. Il faut 1 litre de bouillon de poulet. Donc j'avoue, j'ai fait une poule au pot cette semaine, donc j'avais du vrai bouillon de poule maison. Ce qui change quand même un peu la donne. Un gros oignon finement émincé, une patate douce pelée et coupée en cubes de 1,5 cm, 3 blancs de poulet, 2 cuillères à soupe de gingembre frais finement haché. Vous mettez tout ça à chauffer dans une casserole.
Mmh.
Au bout d'un quart d'heure, vous retirez 3 cuillères à soupe de bouillon de volaille que vous mélangez avec 100 g de purée d'amande.
Ah bah la voilà la purée.
La voilà la purée d'amande. Pour avoir une pâte un peu lisse que vous remettez dans la casserole, vous rajoutez 2 poignées d'épinards finement hachés. Vous remettez 5 minutes à cuire et vous servez avec tout simplement de la coriandre ciselée et du citron vert coupé en quartier.
Il n'y a pas un peu de citronnelle ?
Non, citron vert et coriandre.
Je sentais des notes comme ça. C'est vraiment... On peut qualifier ça de soupe ou de...
Alors c'est qualifié de soupe et effectivement en fait la purée d'amande donne de l'onctuosité.
Absolument.
Et c'est quelque chose que maintenant j'utilise régulièrement, que ça soit pour les soupes, pour les salades. Vous mettez ça dans une vinaigrette, franchement ça remplace beaucoup de matières grasses, que ça soit de l'huile d'olive ou même des crèmes fraîches, des choses comme ça. On obtient des textures absolument dingues avec de la semoule, avec du quinoa. Pour enrober des légumes rôtis au four aussi, ça marche très très bien. Que ça soit de la purée d'amande, de cacahuètes, enfin vous prenez ensuite celle que vous voulez, du tahini en fait.
Le tahini, c'est la pâte de sésame.
Pâte de sésame, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que maintenant, je l'utilise quasiment pas quotidiennement, mais au moins 3 fois par semaine, très facilement.
Très belle idée. Redonnez-nous l'intitulé de cette recette.
Donc la soupe de poulet aux épinards et à la patate douce, tirée du livre Casser la noix, 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amande, de noisettes et de cajou aux éditions Prisma.
Une recette à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Chers amis, derrière votre poste, essayez cette soupe, vous nous en donnez des nouvelles par mail, mais je suis à peu près sûr du résultat, c'est vraiment chouette. La purée d'amande, en un mot, on la trouve où, Amandine Gers ?
Dans les magasins bio, partout.
Il s'agit d'amandes broyées, tout simplement, d'amandes pilées.
D'amandes broyées, peut-être passées à la centrifugeuse, je ne sais pas comment ils fabriquent exactement la purée d'amande. On la trouve blanche et complète.
Moi, je prends la complète. Je préfère, je trouve que déjà d'un point de vue aspect, j'aime bien cette couleur un peu marron. Et puis d'un point de vue goût, je trouve ça plus typé quand même que la blanche.
Oui. Vous choisissez laquelle, Amandine ?
Ça dépend de l'utilisation que j'en fais.
Et en l'occurrence, vos utilisations de cette purée d'amande ?
La purée d'amande blanche, je l'aime bien quand je l'utilise en... Je fais des sortes de sauces qui vont napper des gâteaux au chocolat. Plutôt que de faire des crèmes anglaises ou ce genre de recettes, je dilue simplement de la purée d'amande blanche avec un peu de... soit de miel, soit de sirop d'agave pour la sucrer. J'ajoute un peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide. Je peux mettre des épices, de la cannelle, de la cardamome.
On a même le droit de la vaniller pour se rapprocher encore un peu de la crème anglaise.
On la vanille si on veut, tout à fait. On peut mettre même des zestes d'agrumes, pourquoi pas, selon le gâteau qu'on veut napper. Et on obtient une sorte de crème qui permet de d'accompagner des gâteaux au chocolat, des cakes à l'orange.
Voilà, et une sauce sucrée qui plaît aux amis véganes de Jérôme Gagnès.
Exactement.
Oui. Une excellente... Non mais sans
elle est facile à faire.
Sans œufs, sans produits laitiers. C'est une sauce sucrée tout à fait...
Tout à fait, qui est facile à préparer, sans cuisson.
Et vous avez même fait une compote de fruits que vous liez, à laquelle vous apportez de l'onctuosité grâce à la purée d'amandes.
Oui, c'est ça. J'ai apporté une... compote, alors j'ai utilisé des fruits, des poires, mais aussi de la courge butternut. Mm-hmm. Et j'ai ajouté, alors après la cuisson des fruits, parce qu'on évite de cuire la purée d'amande pour ne pas détériorer ses qualités, au moment de mixer les fruits ou de les écraser à la fourchette, on rajoute à ce moment-là la purée d'amande. Donc ça va donner le goût de l'amande, les bienfaits nutritionnels de l'amande et en effet de l'onctuosité. Il y a ce petit côté gras là qui toujours est assez appétant et fait plaisir.
C'est
au petit comme au grand.
Déborah, à la cuillère plongée dedans, purée de fruits à coque et fruits frais.
On est sur une texture presque plus de curd. Vous savez, le lemon curd, cette fameuse crème en fait à base de...
Citron.
Alors là, qui au contraire est très beurrée et très, très grasse. Là, on est un peu sur cette texture, c'est-à-dire c'est idéal pour napper soit des tartines, moi je maintiens, je suis très tartine, soit tout simplement sur du yaourt, du fromage blanc, enfin c'est juste parfait, ou sur une tranche de cake.
C'est bon.
Et je l'ai mixé.
Très bon. Et la poire est subtile là-dedans, c'est ça qui est...
J'ai mis moitié poire, moitié courge à peu près.
Et la poire perd un peu son côté granuleux grâce à l'onctuosité, la rondeur de la purée d'amande. C'est formidable.
Merci.
Très très belle recette, nourrissante, très bien pour un petit déjeuner d'enfant, pour la rentrée scolaire, pour prendre de bonnes résolutions nutritionnelles, c'est parfait.
Avec un coup de blanc.
Oui, c'est ça, bravo. Oui, très bien, on va se faire des amis. De l'amande brute à la transformation, on en était aux amandes de nos amis, la famille Roman. Une partie de leurs amandes, figurez-vous, va finir dans l'atelier de Laure Lazzarini et Nicolas Granget. Quand le fruit à coque devient une gourmandise sucrée ou salée.
Donc là, on passe devant des serres en fait qui nous servent pour la production de radis. Donc là, vous voyez, on est en train d'arroser parce qu'on est en train de préparer pour le futur semis. Donc là, nous nous dirigeons vers l'atelier de transformation des amandes.
Allez, alors, il faut s'essuyer les pieds là un peu.
Ouais.
Alors, je vois que vous avez des bocaux là, des énormes bocaux qui sont très très beaux. Mais alors, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ?
C'est des herbes de Provence. Ça sent vraiment...
Oula, oui, ça sent la
fort,
Provence.
C'est c'est pas les herbes...
Qu'est-ce que vous faites de ces herbes de Provence ?
Eh bien, on les enrobe en fait sur nos amandes. Je vais vous montrer, il me reste quelques petits sachets. On les grille au four, les amandes.
Vous grillez les amandes au four ?
On les pré-grille, après on les enrobe avec les herbes. En fait, elles sont collées au blanc d'œuf.
Alors ?
Allez-y, servez-vous.
C'est extraordinaire !
Ben oui, en effet, en fait, on a fait le choix de prendre des vraies herbes de Provence parce qu'on a toutes les arômes des différentes herbes. Ça ressort vraiment le goût et le mélange un peu sucré-salé avec l'amande, c'est parfait pour l'apéritif.
On sent, ça sent la Provence.
Ah oui, là, vous avez la garrigue.
C'est ce que j'allais dire, on sent le soleil. Peut-être on le ressent pas forcément de suite, mais après, en bouche, ça donne la longueur.
Nous faisons des amandes pareilles, sur le même principe, mais cette fois-ci enrobées au piment d'Espelette.
Allons-y.
Donc là, c'est pareil, on a fait le choix de prendre du piment français, quoi, AOC, Espelette. Donc c'est le même principe, les amandes sont pré-grillées avant. Et après, c'est pareil, le piment d'Espelette est collé au blanc d'œuf.
Ah, mais ça pique.
C'est le piment.
Mais par contre, il y a moins de parfum.
C'est pas pareil, c'est après, en fait. Généralement, c'est plus doux au départ et le piment vient après. À force d'en manger, ça va commencer à chauffer.
Alors, vous avez cette machine qui est étonnante parce que c'est une machine de cuisine avec, en son centre, cette espèce de boule évidée en cuivre et qu'on voit assez souvent dans les fêtes foraines. Et qu'est-ce que vous êtes en train de cuire, là, Laure ?
Eh bien, nous sommes en train de faire des chouchous, des pralines. C'est des amandes qui sont brassées et chauffées avec du sucre et un peu d'eau, en fait, et le sucre va cristalliser, donc vous voyez, autour de l'amande.
C'est chaud, mais est-ce qu'on peut quand même les goûter, là ?
Ce qu'on va faire, c'est que c'est fini, donc on va arrêter. Et je vais vous vider la pralinière. Allez, vous vider. Et après, ça tombe sur le bac de récupération.
En fait, ça ressemble énormément à la praline qu'on mange dans les brocantes.
C'est
dans
ça. Les... Sauf que là, vous avez le goût de l'amande au lieu du goût de la cacahuète.
C'est même meilleur, je trouve.
Bah oui, évidemment.
Je vous ai rapporté ces amandes aux herbes de Provence. Mais attention, les vraies herbes de Provence issues de la garrigue provençale et pas fabriquées en Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais circuler ces petites amandes d'apéritif.
Ça se mange bien, moi, je trouve.
Ah ouais, c'est même assez addictif, en fait.
Oui, c'est pour l'apéritif.
Vous aimez, Amandine?
L'apéritif, c'est mieux que les chips.
Oui, ça, c'est sûr.
Ouais.
Jérôme?
Ouais, c'est très bon.
C'est vraiment...
Ça sent bien les herbes de Provence, c'est absolument remarquable, ça.
Vraiment excellent. Vous nous avez préparé également une deuxième boisson toute blanche, mais alors là, on n'est pas dans le lait d'amande pur, mais dans quelque chose qui est assez aillé et qui va nous prouver que l'amande, c'est un fruit qu'on adore partout autour du bassin méditerranéen et notamment en Andalousie.
En Andalousie, oui. L'arroz blanco, c'est un gazpacho qui est composé d'amandes crues. Donc, c'est une recette crue qui se boit très, très glacée.
Mm-hmm.
Voilà, on prend le même principe que le lait d'amande, on rajoute de l'ail, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre de xérès, on mixe tout ça, on place au frais et on sert avec des raisins qu'on a épépinés, pelés par exemple. Voilà.
C'est vraiment le gazpacho d'avant l'arrivée de la tomate. C'est le gazpacho blanc avant que la tomate ait été rapportée par les conquistadors. Ouais. C'est le gazpacho des origines qui était fait à base d'amandes, sachant que les musulmans ont apporté évidemment l'amande en Andalousie au moment de leur occupation. Déborah?
Oui, et pour des questions de digestion, on conseille souvent de blanchir l'ail.
Oui.
Pour les personnes qui ont un intestin, on va dire, un peu fragile, de blanchir l'ail deux ou trois fois avant de l'incorporer dans la recette.
La recette, comme toutes les autres, est à retrouver sur notre site internet. Est-ce que l'accord va marcher avec les vins de Jérôme Gagnès? Il est en train de les tester. Réponse dans 3 secondes.
On va déguster sur France Inter.
Qu'est-ce qui est incroyable, Jérôme Gagnès?
L'arroz blanco avec le rouge.
Non.
Ah, c'est incroyable.
Eh bien, j'y vais.
Ah ouais, faut y aller, c'est vraiment incroyable. Bonjour à tous. Alors, on parle...
Ah oui. C'est comme, comme une caisse de résonance.
Ah oui, c'est incroyable.
Des cépages, des tanins.
Et souvent, les vins assez charnus, amples, accompagnent bien l'ail. Il faut de la largeur, il faut de la générosité avec l'ail.
Mariage d'amour.
Ah oui, c'est un vrai joli mariage d'amour. On parle aujourd'hui d'un projet que je trouve remarquable, qui s'appelle Via Caritatis.
Oui.
C'est un projet initié par les moines de l'abbaye du Barou.
Mm-hmm.
Ils sont vignerons, ils ont quelques hectares de vignes, et depuis quelques temps, depuis l'origine d'ailleurs, ils font vinifier par la cave de Beaumont-du-Ventoux.
Oui.
Mais en domaine particulier, c'est-à-dire que leurs raisins sont vinifiés à part et ils récupèrent leurs bouteilles qu'ils commercialisent. Et puis en 2010, le frère qui s'occupe du vignoble fait des rencontres qui sont décisives. Une première rencontre qui est avec Jean-Dominique Artaud, qui est chef de culture de la Janasse, domaine de la Janasse, domaine très connu, très réputé de Châteauneuf, qui fait des très bons vins, Christophe et Aimé Sabon en sont les propriétaires. Miguel Varro, un ingénieur agronome. Et ces gens-là vont lui faire prendre conscience de la très grande qualité des terroirs dont il dispose. Et de l'intérêt qu'il y aurait à monter un projet pour faire des vins plus haut de gamme, des vins qui soient vraiment le reflet de ces beaux terroirs. On est vraiment en plein cœur du Ventoux. Donc, ce projet mûrit en 2012. Les moines intègrent un programme et un projet très intéressant qui avait été initié par les vignerons de la cave coopérative de Beaumont-du-Ventoux, qui est le projet Bancaou. Les Bancaou, c'est le nom local des terrasses, et donc il s'agit de restaurer, de construire des terrasses, des vignobles en terrasse.
Des restants, en quelque sorte.
Exactement. Et de les planter à haute densité, 7000 pieds, plus de 7000 pieds à l'hectare, ce qui est colossal pour la région, puisque la région elle est plantée en général entre 3500 et 4500 pieds hectare. Tout ça avance, tout ça se fait, les moines se passionnent pour ça, et naît en 2015, avec la rencontre aussi de Philippe Camby, qui est le grand œnologue star de Châteauneuf-du-Pape, qui prend pas beaucoup de nouveaux clients, mais là le projet l'intéresse, donc il y va. Naît donc la gamme Via Caritatis. L'idée, en fait, c'est d'associer des vignerons de la cave de Beaumont à ce projet, de vinifier tout ça à part et de donner naissance à cette gamme. Il y a trois gammes, il y a Vox, il y a Pax et il y a Lux. Et on va goûter aujourd'hui deux cuvées, une cuvée qui s'appelle Vox Rouge 2017, c'est ce que nous avons dans nos verres.
D'accord.
Un Ventoux ample, puissant, charnu. On a 90% de Grenache, 5% de Syrah, 5% de Carignan. Donc, on est vraiment dans l'esprit de la région. Un Ventoux puissant, un Ventoux
ah oui,
qui
rond,
regorge
ample.
De fruits mûrs, ample, rond, avec une trame tannique qui est très bien dessinée.
Oui.
Voilà un beau vin du Ventoux. Quand je vous aurais dit que ça vaut 9 euros la bouteille, eh bien, vous pourrez tous vous ruer dans le Ventoux à l'abbaye du Barou. Pour en acheter, l'acheter par palette, parce que c'est vraiment un beau vin, et c'est un vin qui vieillira, c'est un vin qui a un potentiel de vieillissement. On va goûter un autre vin que je vais ouvrir à l'instant.
Et on précise d'ailleurs, cher Jérôme, que c'est, vous l'avez dit, hein, un projet qui favorise l'agriculture paysanne, qui permet à des paysans locaux de poursuivre leur polyculture avec une activité viticole rentable.
Exactement, parce qu'en fait, l'idée des moines...
On boit la conscience tranquille, ouais, entre guillemets, enfin on boit un peu.
On boit un peu. D'accord. En fait, les moines avaient aussi à cœur de conserver cette identité propre au Ventoux de viticulteurs paysans montagnards. Et donc, il y a beaucoup encore de polyculture. Et je mes discussions avec les moines m'ont permis de comprendre qu'ils souhaitaient absolument que cette polyculture reste. Dans le Ventoux, parce que c'est un peu l'âme de ce lieu aussi. Donc vraiment, c'est un très beau projet, avec des vins qui sont admirables. Je vous verse un petit coup de blanc tout de suite, et vous allez pouvoir apprécier...
Je vais passer la bouteille.
Ouais, vous allez pouvoir apprécier ce blanc. Alors, il est un petit peu plus cher, c'est dans la gamme luxe, donc c'est le haut de gamme, c'est moitié clairette, moitié roussane. Une partie des roussanes sont élevées en fût. J'ai beaucoup aimé aussi ce blanc qui est vraiment un très bel exemple de ce que peuvent donner des beaux vins blancs méridionaux.
Ah, c'est chouette.
Fins, droits, il y a de l'ampleur, mais il y a vraiment du fond. Il y a un caractère minéral qui ressort.
Salin.
Il y a salin, il y a de la délicatesse et de la puissance. Vraiment, je trouve que c'est un très beau vin blanc.
Ah oui, très équilibré.
Ça vaut 16 euros, c'est quand même pas très cher pour un vin de cette qualité. Et surtout, quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment un cadeau.
Eh ben,
donc, voilà, Côte du Ventoux Vox Rouge 2017 de Via Caritatis à 9 euros. Côte du Ventoux Luxe Blanc 2017 de Via Caritatis à 16 euros. Les moines du Barou nous enchantent avec ces très beaux vins qui sont vraiment, qui font partie de l'élite et d'un honneur pour le Ventoux.
Bravo pour cette découverte. Et vous êtes en plus, géographiquement, vous l'avez peut-être fait exprès.
Bien sûr.
Juste à côté de Jonquière.
On est vraiment dans le pays de l'amande aussi.
Absolument. La commune où se situe la fameuse exploitation bio de la famille Roman pour ses amandes 100% bio. Ils sont estampillés, labellisés, certifiés.
Alors, il n'y a aucune certification. Le frère m'a expliqué en long, en large et en travers que tout était bio depuis très longtemps, mais que, étant donné que c'est un projet qui est encore un peu fragile, il faut qu'il puisse sauver aussi la récolte en cas de problème. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de vertus dans ce projet.
Merci pour ces conseils, Jérôme Gagnès. Vous avez apprécié ces vins ou pas, Amandine
Gers? Oui, beaucoup. J'ai particulièrement apprécié le rouge.
Oui.
Très, très bon.
Très, très chouette. Avec vraiment des notes, une texture veloutée.
Oui, je m'attendais à quelque chose de plus fort du sud, comme
non,
ça.
Non, mais il y a de la fraîcheur, parce qu'il y a quand même une partie frais, des vignes qui sont en altitude. C'est aussi l'intérêt de l'intérieur du Ventoux.
On finit par quelques tours de main autour de l'amande,
oui,
puisque il y a d'autres choses à imaginer. Alors c'est plus en des petits trucs comme ça, par exemple la poudre d'amande au fond d'une tarte, d'une pâte à tarte.
Oui, bah, pour tout ce qui est tarte de fruits très à queue comme les prunes. Ça se marie bien avec les abricots aussi. Hein. Prune, pêche,
ça capte un peu, ça
va absorber, ça va absorber le jus et de
la rhubarbe.
La rhubarbe. Donc voilà, on peut utiliser d'autres choses, mais en plus avec la poudre d'amande, on a quand même le goût de l'amande qui se rajoute avec l'abricot. On a c'est gagnant.
C'est la saison des tartes aux prunes, aux abricots. C'est une très bonne nouvelle de mettre un peu de poudre d'amande au fond de la pâte à tarte. Vous m'avez rappelé, en préparant cette émission, une recette que j'ai mangée pendant toute mon enfance, qui est très estampillée, années 70, années 80, qu'on trouvait comme ça dans les auberges de province, comme on les appelait. Je suis très attaché à cette recette, c'est...
La truite aux amandes.
Aux amandes effilées.
La truite aux amandes effilées.
Mais c'est magnifique, quel accord.
On fait... frire l'amande,
oui.
On fait une préparation, on la fait frire dans une poêle, elle est un peu croustillante comme ça, et on rajoute des amandes qu'on a... Alors, dans la vraie recette, on fait griller les amandes dans le beurre Bon, moi, je ne vais pas jusque-là. On peut les faire tout simplement dorer à sec dans une poêle. Mm-hmm. Et on les met sur la truite.
Mais c'est meilleur avec du beurre, non?
C'est délicieux.
Il y a du beurre, d'ailleurs. Hein. C'est une truite qui est cuite meunière, ensuite avec des amandes effilées. Mais c'est vraiment très chouette. Elle est complètement perdue, oubliée, cette recette, alors qu'elle vaut la peine pour peu que la truite soit de belle origine. Amandine Gers, merci beaucoup. On retrouve vos recettes, vos actus, votre site internet sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Il y a tout. Vos formidables recettes, on vous remercie. Et il y a un ouvrage complètement tarte pour des tartes salées et sucrées, quiche, pizza 100% bio, qui sort chez Terre Vivante. La date, c'est très bientôt.
Mardi 25 septembre.
Voilà, pour vos recettes. La semaine prochaine, on restera bien dans la Terre Vivante. On reçoit la papesse californienne de la LC Food. Alice Waters sera notre invitée pour une leçon de cuisine. Elvira Masson et Arnaud Daguin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Au revoir Déborah, au revoir Jérôme.
Au revoir.
Au revoir Amandine. À dimanche prochain. Merci. Si vous avez encore faim,